Auriol, deuxième partie, chapitre 1. À peine eut-on reconnu la station d'Enval, le 1er juillet de l'année suivante. Sur le sommet de la butte, debout entre les deux issues du vallon, s'élevait une construction d'architecture mauresque qui portait au front le mot « casino » en lettres d'or. On avait utilisé un petit bois pour créer un petit parc sur la pente vers la Limagne. Une terrasse soutenue par un mur, ornée d'un bout à l'autre par de grands vases en simili-marbre, s'étendait devant cette construction et dominait la vaste plaine d'Auvergne. Plus bas, dans les vignes, 6 chalets montaient, de place en place, leur façade de bois verni. Sur la pente tournée au midi, une immense bâtisse toute blanche appelait de loin les voyageurs qui l'apercevaient en sortant de Rion. C'était le grand hôtel du mont Auriol. Et juste au-dessous, au pied même de la colline, une maison carrée, plus simple, mais vaste, entourée d'un jardin que traversait le ruisselet venu des gorges, offrait aux malades la guérison miraculeuse promise par une brochure du docteur Latonne. On lisait sur la façade « Terme du mont Auriol ». Puis, sur l'aile de droite, en lettres plus petites, « Hydrothérapie, lavage d'estomac, piscine à eau courante ». Et sur l'aile de gauche, Institut médical de gymnastique automotrice. Tout cela était blanc, d'une blancheur neuve, luisante et crue. Des ouvriers travaillaient encore, des peintres, des plombiers, des terrassiers, bien que l'établissement fût ouvert depuis un mois déjà. Le succès d'ailleurs avait dépassé, dès les premiers jours, les espérances des fondateurs. 3 grands médecins, 3 célébrités, messieurs les professeurs Maroussel, Cloche et Rémuseau, avaient pris sous leur protection la station nouvelle et accepté de séjourner quelque temps dans les villas de la Société bernoise des chalets mobiles, mis à leur disposition par les administrateurs des eaux. Sous leur influence, une foule de malades accourait. Le grand hôtel du mont Auriol était plein. Quoique les bains eussent commencé à fonctionner dès les premiers jours de juin, l'ouverture officielle de la station avait été remise au 1er juillet, afin d'attirer beaucoup de monde. La fête devait commencer à 3 heures par la bénédiction des sources, et le soir, une grande représentation, suivie d'un feu d'artifice et d'un bal, réunirait tous les baigneurs du lieu avec ceux des stations voisines, et les principaux habitants de Clermont-Ferrand et de Rion. Le casino, au faîte du mont, disparaissait sous les drapeaux. On ne voyait plus que du bleu, du rouge, du blanc, du jaune, une sorte de nuage épais et palpitant. Tandis qu'au sommet de mâts géants, plantés le long des allées du parc, des oriflammes démesurées se déployaient dans le ciel bleu avec des ondulations de serpents. Monsieur Petrus Martel, qui avait obtenu la direction de ce nouveau casino, se croyait devenu, sous cette nuée de drapeaux, le capitaine tout-puissant de quelque navire fantastique. Et il donnait des ordres aux garçons en tablier blanc avec la voix retentissante et terrible que doivent avoir les amiraux pour commander sous la mitraille. Ses paroles vibrantes, emportées par le vent, étaient entendues jusqu'au village. Andermatt, essoufflé déjà, apparut sur la terrasse. Petrus Martel courut à sa rencontre et le salua d'un grand geste noble. « Tout va bien ?» demanda le banquier. « Tout va bien, monsieur le président. Si on a besoin de moi, on me trouvera dans le cabinet du médecin-inspecteur. Nous avons séance ce matin. » Et il redescendit la colline. Devant la porte de l'établissement thermal, le surveillant et le caissier, enlevés aussi à l'autre société, devenue la société rivale, mais condamnés sans lutte possible, s'élancèrent pour recevoir leur maître. L'ancien geôlier fit le salut militaire, l'autre s'inclina comme un pauvre qui reçoit l'aumône. Andermatt demanda « Monsieur l'inspecteur est ici ?» Le surveillant répondit « Oui, monsieur le président, tous ces messieurs sont arrivés. » Le banquier entra dans le vestibule au milieu des baigneuses et des garçons respectueux, tourna à droite, ouvrit une porte et trouva réunis, dans une large pièce d'aspect sérieux, pleine de livres et de bustes d'hommes de science, tous les membres présents à Enval du conseil d'administration. Son beau-père, le marquis, et Gontran son beau-frère, Auriol père et fils, devenus presque des messieurs, vêtus de redingotes si longues, eux si grands, qu'ils avaient l'air de réclame pour une maison de deuil. Paul Bretigny et le docteur Latonne. Après des poignées de main rapides, on s'assit et Andermatt parla. « Il nous reste à régler une question importante, celle du nom des sources. Je suis sur ce sujet d'un avis tout différent de celui de monsieur l'inspecteur. Le docteur propose de donner à nos trois sources principales les noms des trois sommités de la médecine qui sont ici. Assurément, c'est là une flatterie qui les toucherait et nous les gagnerait davantage. Mais soyez sûrs, messieurs, qu'elles nous aliéneraient à tout jamais ceux de leurs éminents confrères qui n'ont pas encore répondu à notre invitation et que nous devons convaincre, au prix de tous nos efforts et de tous les sacrifices, de l'efficacité souveraine de nos eaux. Oui, messieurs, la nature humaine est invariable. Il faut la connaître et s'en servir. Jamais, messieurs les professeurs Plantureau, Delarenard et Pascali, pour ne citer que ces trois spécialistes des affections de l'estomac et de l'intestin, n'enverront leurs malades, leurs clients, leurs meilleurs clients, les plus illustres, les princes et les archiducs, toutes les célébrités mondaines qui font en même temps leur fortune et leur réputation. Jamais ils ne les enverront se guérir avec l'eau de la source Maroussel, de la source Cloche ou de la source Rémuseau. Car ses clients et le public entier seraient un peu fondés à croire que ce sont messieurs les professeurs Rémuseau, Cloche et Maroussel qui ont découvert notre eau et toutes ses propriétés thérapeutiques. Il n'est pas douteux, messieurs, que le nom de Goebbler, dont on a baptisé la première source de Châtel-Guyon, n'est indisposé longtemps contre cette station aujourd'hui prospère une partie au moins des grands médecins qui auraient pu la patronner dès l'origine. Je vous propose donc de donner tout simplement le nom de ma femme à la première source découverte et le nom de mesdemoiselles Auriol aux deux autres. Nous aurons ainsi les sources Christiane, Louise et Charlotte. « Ça va très bien. C'est très gentil. Qu'en dites-vous ?» Son avis fut adopté, même par le docteur Latonne, qui ajouta « On pourrait alors prier messieurs Maroussel, Cloche et Rémuseau d'être parrains et d'offrir le bras aux marraines. »« Parfait, parfait !» dit Andermatt. « Je cours chez eux. Et ils accepteront. J'en réponds. Ils accepteront. » Donc rendez-vous à 3 heures, à l'église où le cortège se formera. » Et il repartit en courant. Le marquis et Gontran le suivirent presque aussitôt. Les deux Auriol, coiffés de chapeaux de forme haute, se mirent en marche à leur tour côte à côte, graves et tout noirs sur la route blanche. Et le docteur Latonne dit à Paul, arrivé seulement la veille pour assister à la fête, « Je vous ai retenu, mon cher monsieur, afin de vous montrer une chose dont j'attends merveille. C'est mon institut médical de gymnastique automotrice. » Il le prit par le bras et l'entraîna. Mais à peine furent-ils dans le vestibule qu'un garçon de bain arrêta le médecin. « C'est monsieur Riquier qui attend pour son lavage. » Le docteur Latonne, l'année précédente, médisait les lavages d'estomac préconisés et pratiqués par le docteur Bonnefille dans l'établissement dont il était inspecteur. Mais les temps avaient modifié son opinion. et la sonde Baraduc était devenue le grand instrument de torture du nouvel inspecteur qui la plongeait dans tous les œsophages avec une joie enfantine. Il demanda à Paul Bretigny « Avez-vous jamais vu faire cette petite opération-là » L'autre répondit « Non, jamais. »« Venez donc, mon cher, c'est très curieux. » Ils entrèrent dans la salle des douches où M. Riquier, l'homme au teint de brique, qui essayait cette année-là les sources récemment découvertes, comme il avait essayé chaque été de toutes les stations naissantes, attendait sur un fauteuil de bois. Pareil à quelque supplicié des temps anciens, il était serré, étranglé dans une sorte de camisole de force en toile cirée qui devait préserver ses vêtements des souillures et des éclaboussures. Et il avait l'air misérable, inquiet et douloureux des patients qu'un chirurgien vient opérer. Dès que le docteur apparut, le garçon saisit un long tube qui se divisait en trois vers le milieu et qui avait l'air d'un serpent mince à double queue. Puis l'homme fixa un des bouts à l'extrémité d'un petit robinet communiquant avec la source. On laissa tomber le second dans un récipient de verre où s'écouleraient tout à l'heure les liquides rejetés par l'estomac du malade. Et monsieur l'inspecteur, prenant d'une main tranquille le troisième bras de ce conduit, l'approcha, avec un air aimable, de la mâchoire de monsieur Riquier, le lui passa dans la bouche et, le dirigeant adroitement, le fit glisser dans la gorge, l'enfonçant de plus en plus avec le pouce et l'index, d'une façon gracieuse et bienveillante, en répétant « Très bien, très bien, très bien, ça va, ça va, ça va, ça va, parfaitement. » Monsieur Riquier, les yeux hagards, les joues violettes, l'écume aux lèvres, haletait, suffoquait, poussait des hoquets d'angoisse, et, cramponné au bras du fauteuil, faisait des efforts terribles pour rejeter cette bête de caoutchouc qui lui pénétrait dans le corps. Lorsqu'il en eut avalé un demi-mètre environ, le docteur dit « Nous sommes au fond, ouvrez !» Le garçon alors ouvrit le robinet. Et bientôt, le ventre du malade se gonfla visiblement, rempli peu à peu par l'eau tiède de la source. « Toussez !» disait le médecin. « Toussez pour amorcer la descente !» Au lieu de tousser, il râlait, le pauvre, et secoué de convulsions, paraissait prêt surtout à perdre ses yeux qui lui sortaient de la tête. Puis soudain, un léger glou-glou se fit entendre par terre, à côté de son fauteuil. Le siphon du tube à double conduit venait enfin de s'amorcer, et l'estomac se vidait maintenant dans ce récipient de verre où le médecin recherchait, avec intérêt, les indices du catarrhe et les traces reconnaissables des digestions incomplètes. « Vous ne mangerez plus jamais de petits pois, » lisait-il, « ni de salade. » « Oh, pas de salade, vous ne la digérez nullement. »« Pas de fraises non plus. » »« Je vous l'ai déjà répété 10 fois, pas de fraises. » Monsieur Riquier semblait furieux. Il s'agitait maintenant, sans pouvoir parler avec ce tube qui lui bouchait la gorge. Mais lorsque le lavage terminé, le docteur lui eut extrait délicatement cette sonde des entrailles, il s'écria « Est-ce ma faute si je mange tous les jours des saletés qui me perdent la santé? N'est-ce pas vous qui devriez veiller sur les menus de votre hôtelier? Je suis venu à votre nouvelle gargote parce qu'on m'empoisonnait à l'ancienne avec des nourritures abominables. Et je suis plus mal encore dans votre grande baraque d'auberge du Mont Auriol. Parole d'honneur !» Le médecin dut le calmer et il promit, plusieurs fois de suite, de prendre sous sa direction la table d'hôte des malades. Puis il ressaisit le bras de Paul Bretigny et, l'emmenant, « Voici sur quel principe extrêmement rationnel j'ai établi mon traitement spécial par la gymnastique automotrice que nous allons visiter. Vous connaissez mon système de médecine organométrique, n'est-ce pas? Je prétends qu'une grande partie de nos maladies proviennent uniquement du développement excessif d'un organe qui empiète sur le voisin. gêne ses fonctions et détruit en peu de temps l'harmonie générale du corps, d'où naissent les troubles les plus graves. Or, l'exercice est, avec les douches et le traitement thermal, un des moyens les plus énergiques pour rétablir l'équilibre et ramener les parties envahissantes à leurs proportions normales. Mais comment décider l'homme à faire de l'exercice? Il n'y a pas seulement dans l'acte de marcher, de monter à cheval, de nager ou de ramer un effort physique considérable. Il y a aussi et surtout un effort moral. C'est l'esprit qui décide, entraîne et soutient le corps. Les hommes d'énergie sont des hommes de mouvement. Or, l'énergie est dans l'âme et non pas dans les muscles. Le corps obéit à la volonté vigoureuse. Il ne faut point songer, mon cher, à donner du courage aux lâches, ni de la résolution aux faibles. Mais nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons faire plus. Nous pouvons supprimer le courage, supprimer l'énergie mentale, supprimer l'effort moral et ne laisser subsister que le mouvement physique. Cet effort moral, je le remplace avec avantage par une force étrangère et purement mécanique. Comprenez-vous? Non, pas très bien. Entrons. Il ouvrit une porte qui donnait sur une vaste salle où étaient alignés des instruments bizarres, de grands fauteuils à jambes de bois, des chevaux grossiers en sapin, des planchettes articulées, des barres mobiles tendues devant des chaises fixées au sol. Et tous ces objets étaient armés d'engrenages compliqués que faisaient mouvoir des manivelles. Le docteur reprit. « Voici, nous avons quatre exercices principaux que j'appellerai les exercices naturels. Ce sont la marche, l'équitation, la natation et le canotage. Chacun de ces exercices développe des membres différents, agit d'une façon spéciale. Or, nous les possédons ici tous les quatre, produits artificiellement. On n'a qu'à se laisser faire en ne pensant à rien et on peut courir, monter à cheval, nager ou ramer pendant une heure sans que l'esprit prenne part, le moins du monde, à ce travail tout musculaire. » À ce moment, M. Aubry Pasteur entrait, suivi d'un homme dont les manches retroussées montraient des biceps vigoureux. L'ingénieur avait encore engraissé. Il marchait, les cuisses écartées, les bras loin du corps, en haletant. Le docteur dit « Vous vous instruirez de visu. » Et s'adressant à son malade « Eh bien, mon cher monsieur, qu'allons-nous faire aujourd'hui? De la marche ou de l'équitation ?» Monsieur Aubry Pasteur, qui serrait les mains de Paul, répondit « Je désire un peu de marche assise, cela me fatigue moins. » Monsieur Latonne reprit « Nous avons, en effet, la marche assise et la marche debout. La marche debout, plus efficace, est assez pénible. Je l'obtiens au moyen de pédales sur lesquelles on monte et qui mettent les jambes en mouvement pendant qu'on se maintient en équilibre en se cramponnant à des anneaux scellés dans le mur. Mais voici la marche assise. » L'ingénieur s'était écroulé dans un fauteuil à bascule et il posa ses jambes dans les jambes de bois à jointure mobile attachées à ce siège. On lui sangla les cuisses, les mollets et les chevilles, de façon qu'il ne put accomplir aucun mouvement volontaire. Puis, l'homme aux manches retroussées, saisissant la manivelle, la tourna de toute sa force. Le fauteuil d'abord se balança comme un hamac, puis les jambes tout à coup partirent, s'allongeant et se recourbant, allant et revenant avec une vitesse extrême. « Il court !» dit le docteur, qui ordonna « Doucement, allez au pas !» L'homme, ralentissant son allure, imposa au gros ingénieur une marche assise plus modérée, qui décomposait d'une façon comique tous les mouvements de son corps. Deux autres malades apparurent alors, énormes tous deux, et suivis aussi de deux garçons de service aux bras nus. On les hissa sur des chevaux de bois qui, mis en mouvement, se mirent aussitôt à sauter sur place en secouant leurs cavaliers d'une abominable manière. « Au galop !» cria le docteur. Et les bêtes factices, bondissant comme des vagues, chavirant comme des navires, fatiguèrent tellement les deux patients qu'ils se mirent à crier ensemble d'une voix essoufflée et lamentable. « Assez ! Assez ! Je n'en puis plus ! Assez !» Le médecin commanda « Stop !» puis ajouta « Soufflez un peu, vous reprendrez dans 5 minutes. » Paul Bretigny, qui étouffait d'envie de rire, fit remarquer que les cavaliers n'avaient pas chaud, tandis que les tourneurs de manivelle étaient en sueur. « Si vous intervertissiez les rôles, disait-il, cela ne vaudrait-il pas mieux ?» Le docteur répondit gravement. « Oh, pas du tout, mon cher. Il ne faut pas confondre exercice et fatigue. Le mouvement de l'homme qui tourne la roue est mauvais, tandis que le mouvement du marcheur ou de l'écuyer est excellent. » Mais Paul aperçut une selle de femme. « Oui, dit le médecin, le soir est réservé aux dames. Les hommes ne sont plus admis après-midi. Venez donc voir la natation sèche. » Un système de planchettes mobiles vissées ensemble par leurs extrémités et par leur centre, s'allongeant en losange ou se refermant en carré, comme ce jeu d'enfant qui porte des soldats piqués, permettait de garrotter et d'écarteler 3 nageurs en même temps. Le docteur disait « Je n'ai pas besoin de vous vanter les avantages de la natation sèche, qui ne mouille le corps que de transpiration, et n'expose par conséquent notre baigneur imaginaire à aucun accident rhumatismal. » Mais un garçon vint le chercher, une carte à la main. « Le duc de Rama, mon cher, je vous quitte. « Excusez-moi. » Paul, resté seul, se retourna. Les 2 cavaliers trottaient de nouveau. Monsieur Aubry Pasteur marchait toujours. Et les 3 Auvergnats haletaient, les bras rompus, les reins cassés à secouer ainsi leurs clients. Ils avaient l'air de moudre du café. Quand il fut dehors, Bretigny aperçut le docteur Honorat regardant avec sa femme les préparatifs de la fête. Ils se mirent à causer, les yeux levés sur les drapeaux qui auréolaient la colline. « C'est à l'église que se forme le cortège ?» demanda l'épouse du médecin. « C'est à l'église. » « À 3 heures ?»« À 3 heures. » « Messieurs les professeurs y seront ?»« Oui, ils accompagneront les marraines. » Les dames paille l'arrêtèrent ensuite, puis les monécus, père et fille, mais comme il devait déjeuner en tête à tête avec son ami Gontran au café du casino, il y monta à petits pas. Paul, arrivé la veille, n'avait point vu seul à seul son camarade depuis 1 mois, et il voulait lui conter beaucoup d'histoires du boulevard, histoires de filles et de tripots. Ils étaient restés à bavarder jusqu'à 2h30, quand Petrus Martel les prévint qu'on se rendait à l'église. « Allons chercher Christiane, » dit Gontran. « Allons, » reprit Paul. Ils la trouvèrent debout sur le perron du nouvel hôtel. Elle avait les joues creuses, le teint bistré des femmes enceintes, et sa taille fortement bosselée annonçait une grossesse de 6 mois au moins. « Je vous attendais, » dit-elle. « William est parti en avant, il a tant de choses à faire aujourd'hui. » Elle leva sur Paul Bretigny un regard plein de tendresse et prit son bras. Ils se mirent en route doucement, évitant les pierres. Elle répétait « Comme je suis lourde, comme je suis lourde, je ne sais plus marcher, j'ai si peur de tomber. » Il ne répondait pas et la soutenait avec précaution, sans chercher à rencontrer ses yeux qu'elle tournait sans cesse vers lui. Une foule compacte les attendait devant l'église. Andermatt cria « Enfin, enfin, dépêchez-vous donc ! Tenez, voici l'ordre. 2 enfants de chœur, 2 chantres en surplis, la croix, l'eau bénite, le prêtre, puis Christiane avec monsieur le professeur Cloche, mademoiselle Louise avec monsieur le professeur Rémuseau, et Mademoiselle Charlotte avec Monsieur le professeur Maroussel. Viennent ensuite le conseil d'administration, le corps médical, puis le public. C'est compris. En avant. Le personnel ecclésiastique sortit alors de l'église et prit la tête de la procession. Puis un grand monsieur à cheveux blancs rejeté derrière les oreilles, le savant classique, suivant la forme académique, s'approcha de Madame Andermatt et la salua profondément. Quand il se fut redressé, il partit à côté d'elle, nu-tête pour montrer sa belle chevelure scientifique, le chapeau sur la cuisse, l'air imposant, comme s'il eût appris à marcher à la Comédie-Française et à faire voir au peuple sa rosette d'officier de la Légion d'honneur, trop grande pour un homme modeste. Il causait. « Monsieur votre époux, madame, me parlait de vous tout à l'heure, et de votre état qui lui inspire quelques inquiétudes d'affection. Il m'a dit vos doutes et vos hésitations sur le moment probable de votre délivrance. » Elle était devenue rouge jusqu'aux tempes, et elle murmura « Oui, je me suis crue mère bien longtemps avant de l'être. Maintenant, je ne sais plus. » Elle balbutiait, toute confuse. Une voix disait derrière eux « Cette station a le plus grand avenir. J'obtiens déjà des effets surprenants. » C'était le professeur Rémuseau s'adressant à sa compagne Louise Auriol. Il était petit, celui-là, avec des cheveux jaunes, mal peignés, une redingote mal coupée, l'air malpropre du savant crasseux. Le professeur Maroussel, qui donnait le bras à Charlotte Auriol, était un beau médecin, sans barbe ni moustache, souriant, soigné, à peine grisonnant, un peu gras, et dont la douce figure rasée ne semblait ni d'un prêtre ni d'un acteur, comme celle du docteur Latonne. Le conseil d'administration venait ensuite, conduit par Andermatt et dominé par les coiffures gigantesques des deux Auriol. Derrière eux marchait encore une compagnie de hauts chapeaux, le corps médical d'Enval, auquel manquait le docteur Bonnefille, remplacé d'ailleurs par deux nouveaux médecins, le docteur Black, un vieil homme très court, presque un nain, dont l'excessive dévotion avait surpris le pays entier dès le jour de son arrivée. Puis un très beau garçon, très coquet, coiffé, lui, d'un petit chapeau, le docteur Maselli, un Italien attaché à la personne du duc de Rama. D'autres disaient à la personne de la duchesse. Et derrière eux, le public, un flot de public, de baigneurs, de paysans et d'habitants des villes voisines. La bénédiction des sources fut très courte. L'abbé Litre les aspergea l'une après l'autre avec l'eau bénite, ce qui fit dire au docteur Honorat qu'il allait leur donner des propriétés nouvelles avec le chlorure de sodium. Puis, toutes les personnes spécialement invitées entrèrent dans la grande salle de lecture, où une collation était servie. Paul disait à Gontran « Comme les petites Auriol sont devenues jolies !»« Elles sont charmantes, mon cher !»« Vous n'avez pas vu, monsieur le président ?» demanda soudain aux jeunes gens l'ancien geôlier surveillant. « Oui, il est dans le coin là-bas. »« C'est que le père Clovis amasse du monde devant la porte !» Déjà, en allant aux sources pour les bénir, la procession tout entière avait défilé devant le vieil invalide, guéri l'année d'avant et redevenu à présent plus paralytique que jamais. Il arrêtait les étrangers sur les routes et les derniers venus de préférence pour leur conter son histoire. « Chez Jola, voyez-vous, ça ne vaut rien, ça guérit, c'est vrai, et puis on retombe, mais on retombe presque mort. Moi, j'avais les jambes qu'à l'épu, acheteur, v'là que je perds les bras, par chute de la cure. Et mes jambes, j'étais du fer, mais du fer qu'on couperait plutôt que le plier. » Andermatt, désolé, avait essayé de le faire emprisonner, en le poursuivant judiciairement pour préjudice causé aux eaux du mont Auriol et tentative de chantage. mais il n'avait pu réussir à obtenir une condamnation, ni à lui fermer la bouche. Aussitôt informé que le vieux jasait devant la porte de l'établissement, il s'élança pour le faire taire. Au bord de la grande route, au milieu d'un attroupement, il entendit des voix furieuses. On se pressait pour écouter et pour voir. Des dames demandaient « Qu'est-ce que c'est ?» Des hommes répondaient « C'est un malade que les eaux d'ici ont achevé !» D'autres croyaient qu'on venait d'écraser un enfant. On parlait aussi d'une attaque d'épilepsie dont aurait été frappée une pauvre femme. Andermatt fendit la foule, comme il savait faire, en roulant violemment son petit ventre rond entre les ventres. « Il prouve, disait Gontran, la supériorité des billes sur les pointes. » Le père Clovis, assis sur le fossé, geignait ses peines, comptait ses souffrances en pleurnichant, tandis que, debout devant lui et le séparant du public, les deux Auriol, exaspérés, l'injuriaient et le menaçaient à pleine gorge. « Ça n'est pas vrai !» criait Colosse. « C'est un menteux, un feignant, un braconnier qui court le bois toute la nuit !» Mais le vieux, sans s'émouvoir, répétait d'une petite voix perçante, entendue malgré les vociférations des deux hommes. « Ils m'ont toi, mes bons messieurs! Ils m'ont toi avec leur eau! Ils m'ont baigné par force, l'an passé! Et me v'là, acheteur! Me v'là! Me v'là !» Andermatt imposa silence à tout le monde, et, se penchant vers l'impotent, il lui dit, en le regardant au fond des yeux, « Si vous êtes plus malade, c'est votre faute, entendez-vous? Mais si vous m'écoutez, je vous réponds de vous guérir, moi, en 15 ou 20 bains tout au plus. Venez me trouver dans 1 heure à l'établissement, quand tout le monde sera parti, et nous arrangerons ça, mon père. En attendant, taisez-vous. » Le vieux avait compris. Il se tut. Puis après un silence, il répondit « Je veux toujours ben échayer. Verraille !» Andermatt prit par le bras les deux Auriol et les entraîna vivement, tandis que le père Clovis restait allongé sur l'herbe entre ses béquilles, au bord de la route, clignant les yeux sous le soleil. La foule intriguée se serrait autour de lui. Des messieurs l'interrogeaient, mais il ne répondait plus, comme s'il n'avait pas entendu ou pas compris. Et cette curiosité, inutile à présent, finissant par l'ennuyer, il se mit à chanter à tue-tête, d'une voix aussi fausse que suraiguë, une interminable chanson, en patois inintelligible. Et la foule s'écoula peu à peu. Seuls quelques enfants demeurèrent longtemps devant lui, les doigts dans le nez en le contemplant. Christiane, très fatiguée, était rentrée se reposer. Paul et Gontran se promenaient dans le nouveau parc au milieu des visiteurs. Tout à coup, ils aperçurent la compagnie des acteurs qui avait aussi déserté l'ancien casino pour s'attacher à la fortune naissante du nouveau. Mademoiselle Audelin, devenue très élégante, se promenait au bras de sa mère, qui avait pris de l'importance. Monsieur Petit-Nivelle, du Vaudeville, semblait très empressé auprès de ces dames, que suivait Monsieur Lapalme, du Grand Théâtre de Bordeaux, en discutant avec les musiciens, toujours les mêmes. Le maestro Saint-Landry, le pianiste Javel, le flûtiste Noirot et la contrebasse Nicordi. En apercevant Paul et Gontran, Saint-Landry s'élança vers eux. Il avait eu, pendant l'hiver, un tout petit acte en musique joué dans un tout petit théâtre excentrique. Mais les journaux avaient parlé de lui avec une certaine faveur, et il traitait de haut, maintenant, messieurs Massenet, Rayet et Gounod. Il tendit ses deux mains avec un élan bienveillant et raconta aussitôt sa discussion avec ces messieurs de l'orchestre qu'il dirigeait. « Oui, mon cher, c'est fini, 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 des ringuénards de la vieille école. Les mélodistes ont fait leur temps. Voilà ce qu'on ne veut pas comprendre. La musique est un art neuf, la mélodie en est le bégaiement. L'oreille ignorante a aimé les ritournelles. Elle y prenait un plaisir d'enfant, un plaisir de sauvage. J'ajoute que les oreilles du peuple, ou du public naïf, les oreilles simples, aimeront toujours les petites chansons, les airs, enfin. C'est un amusement assimilable à celui que prennent les habitués des cafés-concerts. Je vais me servir d'une comparaison pour me faire bien comprendre. L'œil du rustre aime les couleurs brutales et les tableaux éclatants. L'œil du bourgeois lettré, mais non artiste, aime les nuances aimablement prétentieuses et les sujets attendrissants. Mais l'œil artiste, l'œil raffiné, aime, comprend, distingue les insaisissables modulations d'un même ton, les accords mystérieux des nuances, invisibles pour tout le monde. De même en littérature, les concierges aiment les romans d'aventure, les bourgeois aiment les romans qui les émeuvent, et les vrais lettrés n'aiment que les livres artistes incompréhensibles pour les autres. Quand un bourgeois me parle musique, j'ai envie de le tuer. Et quand c'est à l'opéra, je lui demande « Êtes-vous capable de me dire si le troisième violon a fait une fausse note à l'ouverture du troisième acte ?»« Non ? Alors, taisez-vous, vous n'avez pas d'oreille !» L'homme qui, dans un orchestre, n'entend pas en même temps l'ensemble et séparément tous les instruments, n'a pas d'oreille et n'est pas musicien. Voilà. Bonsoir. Il pivota sur un talon et reprit. Pour un artiste, toute la musique est dans un accord. Ah, mon cher, certains accords m'affolent, me font entrer dans toute la chair un flot de bonheur inexprimable. J'ai aujourd'hui l'oreille tellement exercée, tellement faite, tellement mûre, que je finis par aimer même certains accords faux, comme un amateur dont la maturité de goût arrive à la dépravation. Je commence à être un corrompu qui cherche les extrêmes sensations d'ouïe. Oui, mes amis, certaines fausses notes, quelles délices perverses et profondes! Comme ça remue, comme ça ébranle les nerfs, comme ça gratte l'oreille, comme ça gratte, comme ça gratte. Il se frottait les mains avec ravissement et il chantonna « Vous entendrez mon opéra, mon opéra, mon opéra, vous entendrez mon opéra. » Gontran dit « Vous faites un opéra ?»« Oui, je l'achève. » Mais la voix de commandement de Petrus Martel retentissait. « Vous comprenez bien, c'est convenu, une fusée jaune, et vous partez !» Il donnait des ordres pour le feu d'artifice. On le rejoignit, et il expliqua ses dispositions en montrant de son bras tendu, comme s'il eût menacé une flotte ennemie, des piquets de bois blanc sur la montagne, au-dessus des gorges, de l'autre côté du vallon. « C'est là-bas qu'on le tirera !» Je disais à mon artificier d'être à son poste dès 8h30. Aussitôt que le spectacle sera fini, je donnerai le signal d'ici par une fusée jaune. Et alors, il allumera la pièce d'ouverture. Le marquis apparut. « Je vais boire un verre d'eau, » dit-il. Paul et Gontran l'accompagnèrent et redescendirent la colline. En arrivant à l'établissement, ils aperçurent le père Clovis qui y pénétrait, soutenu par les deux Auriol, suivi par Andermatt et par le docteur, et faisant, à chaque traînée de ses jambes sur le sol, des contorsions de souffrance. « Entrons, » dit Gontran, « ce sera drôle. » On assit l'impotent sur un fauteuil. Puis Andermatt lui dit « Voici mes propositions, vieux filou que vous êtes. Vous allez vous guérir immédiatement, en prenant 2 bains chaque jour. » Et vous aurez 200 francs aussitôt que vous marcherez. » Le paralytique se mit à gémir. « Mes jambes, j'ai du fer, mon brave monsieur !» Andermatt le fit taire et reprit. « Écoutez donc, et vous aurez encore 200 francs tous les ans, jusqu'à votre mort. Vous entendez ? Jusqu'à votre mort, si vous continuez à éprouver l'effet salutaire de nos eaux. » Le vieux resta perplexe. La guérison continue contrariait toutes ses dispositions d'existence. Il demanda en hésitant, « Mais quand j'ai fermé votre boîte, si ça me reprend, j'y peux rien, moi, puisque j'ai fermé votre eau. » Le docteur Latonne l'interrompit et, se tournant vers Andermatt, « Parfait, parfait, nous le guérirons tous les ans. Cela vaut mieux, éprouvera la nécessité du traitement annuel, l'indispensabilité du retour. Parfait, c'est entendu. » Mais le vieux répétait de nouveau, « Je serai pas commode, cette fois, mes braves messieurs. Mes jambes, j'ai du fer en bas. » Une idée nouvelle germait dans l'esprit du docteur. Si je lui faisais faire quelques séances de marche assise, dit-il, je hâterais beaucoup l'effet des os. C'est une chose à tenter. Excellente pensée, répondit Andermatt, qui ajouta, maintenant, père Clovis, allez-vous-en, et n'oubliez pas nos conventions. Le vieux partit en gémissant toujours. Et comme le soir venait, tous les administrateurs du Bon Auriol rentrèrent dîner, car la représentation théâtrale était annoncée pour 7h30. Elle avait lieu dans la grande salle du nouveau casino, qui pouvait contenir 1000 personnes. Dès 7h, les spectateurs qui n'avaient point de place numérotée se présentèrent. À 7h30, la salle était pleine et le rideau se leva sur un vaudeville en 2 actes qui précédait l'opérette de Saint-Landry, interprétée par des chanteurs de Vichy, cédés pour la circonstance. Christiane, au premier rang, entre son père et son mari, souffrait beaucoup de la chaleur. Elle disait à tout instant, « Je n'en puis plus, je n'en puis plus. » Après le vaudeville, lorsque commença l'opérette, elle faillit se trouver mal, et se tournant vers son mari, « Mon cher Will, je vais être obligée de sortir, j'étouffe. » Le banquier fut désolé. Il tenait avant tout à ce que la fête réussît d'un bout à l'autre, sans un accroc. Il répondit, fais tous tes efforts pour résister, je t'en supplie, ton départ bouleverserait tout, tu aurais la salle entière à traverser. » Mais Gontran, placé derrière elle avec Paul, avait entendu. Il se pencha vers sa sœur. « Tu as trop chaud ? » dit-il. « Oui, j'étouffe. » « Bon, attends, tu vas rire. » Une fenêtre était proche. Il s'y glissa, monta sur une chaise et sauta dehors sans être presque remarqué. Puis il entra dans le café, complètement vide, étendit la main sous le comptoir, où il avait vu Petrus Martel cacher la fusée de signal, et, l'ayant volée, il courut se cacher dans un massif, puis l'alluma. La rapide gerbe jaune s'envola vers les nuages en décrivant une courbe et jetant à travers le ciel une longue pluie de gouttes de feu. Presque aussitôt, une formidable détonation éclata sur la montagne voisine et un faisceau d'étoiles s'éparpilla dans la nuit. Quelqu'un cria dans la salle de spectacle où frémissaient les accords de Saint-Landry. « On tire le feu d'artifice !» Les spectateurs les plus proches des portes se levèrent brusquement pour s'en assurer et sortirent à pas léger. Tous les autres tournèrent les yeux vers les fenêtres, mais ne virent rien, car elles regardaient la Limagne. On demandait « Est-ce vrai ? Est-ce vrai ?» Une agitation remuait la foule impatiente, avide surtout d'amusement simple. Une voix du dehors annonça « C'est vrai ! On le tire !» Alors, en une seconde, toute la salle fut debout. On se précipitait vers les portes, on se bousculait, on hurlait vers ceux qui obstruaient la sortie. « Mais dépêchez-vous donc ! Mais dépêchez-vous !» Tout le monde fut bientôt dans le parc. Seul, Saint-Landry, exaspéré, continuait à battre la mesure devant son orchestre distrait. Et là-bas, les soleils succédaient aux chandelles romaines au milieu des détonations. tout à coup, une voix formidable lança trois fois ce cri furieux. « Arrêtez, nom de Dieu ! Arrêtez, nom de Dieu ! Arrêtez, nom de Dieu !» Et comme un feu de Bengale immense s'allumait alors sur le mont, éclairant en rouge à droite, en bleu à gauche, les rochers énormes et les arbres, on aperçut, debout dans un des vases de simili-marbre qui décorait la terrasse du casino, Petrus Martel éperdu, nu-tête, les bras en l'air, gesticulant et hurlant. Puis, la grande clarté s'éteignant, on ne vit plus rien que les vraies étoiles. Mais aussitôt, une autre pièce partit, et Petrus Martel, sautant à terre, s'écria « Quel désastre ! Quel désastre ! Mon Dieu, quel désastre !» Et il passait dans la foule avec des gestes tragiques, des coups de poing dans le vide, des trépignements de colère, en répétant toujours « Quel désastre, mon Dieu, quel désastre !» Christiane avait pris le bras de Paul pour venir s'asseoir au grand air, et elle regardait, ravie, les fusées qui montaient au ciel. Son frère la rejoignit tout à coup et dit « Est-ce réussi ? Crois-tu que c'est drôle ?» Elle murmura
« Comment ? C'est toi ?
Mais oui, c'est moi ! Est-elle bonne, hein ?» Elle se mit à rire, trouvant cela drôle en effet. Mais Andermatt arrivait navré. Il ne comprenait pas d'où un coup pareil était parti. On avait volé la fusée sous le comptoir pour donner le signal convenu. Une pareille infamie ne pouvait venir que d'un émissaire de l'ancienne société, d'un agent du docteur Bonnefille. Et il répétait, lui, « C'est désolant, positivement désolant. Voici un feu d'artifice de 2 300 francs qui est perdu, tout à fait perdu. » Gontran reprit, « Non, mon cher, en comptant bien, la perte ne s'élève pas à plus du quart. Mettons au tiers, si vous voulez, soit 766 francs. Vos invités auront donc joui de 1534 francs de fusée. Ça n'est pas mal, en vérité. » La colère du banquier se tourna vers son beau-frère. Il le prit brusquement par le bras. « Vous, j'ai à vous parler d'une façon sérieuse, puisque je vous tiens. Faisons un tour dans les allées. J'en ai pour 5 minutes, d'ailleurs. » Puis, se tournant vers Christiane, « Je vous confie à notre ami Bretigny, ma chère. Mais ne restez pas longtemps dehors, ménagez-vous. Vous pourriez attraper froid, vous savez. Prenez garde, prenez garde. » Elle murmura, « Ne craignez rien, mon ami. » Et Andermatt entraîna Gontran. Dès qu'ils furent seuls, un peu loin de la foule, le banquier s'arrêta. « Mon cher, c'est de votre situation financière que je veux vous parler. »
« De ma situation financière ?»«
Oui, la connaissez-vous, votre situation financière ?»«
Non, mais vous devez la connaître pour moi, puisque vous me prêtez de l'argent. » »«
Eh bien oui, je la connais, moi, et c'est pour cela que je vous en parle. » »«
Il me semble au moins que le moment est mal choisi, au milieu d'un feu d'artifice. » »«
Le moment est fort bien choisi, au contraire. » Je ne vous parle pas au milieu d'un feu d'artifice, mais avant un bal. » «
Avant un bal ? Je ne comprends pas. » «
Eh bien, vous allez comprendre. Votre situation, la voici. Vous n'avez rien, que des dettes, et vous n'aurez jamais rien que des dettes. » Gontran reprit avec sérieux.
« Vous me dites cela un peu crûment. » «
Oui, parce qu'il le faut. Écoutez-moi, vous avez mangé la part de fortune qui vous revenait de votre mère. N'en parlons plus. » «
N'en parlons plus ? » «
Quant à votre père, il possède 30 000 francs de rente, soit un capital de 800 000 francs environ. Votre part sera donc plus tard de 400 000 francs. Or, vous me devez, à moi, 190 000 francs. Vous devez en outre à des usuriers. »
Gontran murmura d'un air hautain, « Dites à des juifs. » «
Soit, à des juifs, bien qu'il y ait dans le nombre un marguillier de Saint-Sulpice qui s'est servi d'un prêtre comme intermédiaire entre lui et vous.
mais je ne chicanerai pas pour si peu. Vous devez donc à divers usuriers, israélites ou catholiques, à peu près autant. Mettons 150 000 au bas mot. Cela fait un total de 340 000 francs dont vous payez les intérêts en empruntant toujours, sauf pour les miens, que vous ne payez point.
C'est juste, dit Gontran.
Alors, il ne vous reste plus rien.
Rien, en effet, que mon beau-frère.
Que votre beau-frère, qui en a assez de vous prêter de l'argent.
Alors ?
Alors, mon cher, le moindre paysan logé dans une de ces huttes là-bas est plus riche que vous.
Parfaitement. Et après ?
Après ? Après. Si votre père mourait demain, il ne vous resterait plus pour manger du pain. Pour manger du pain, entendez-vous ? Qu'à accepter une place d'employé dans ma maison. Et ce serait encore là un moyen de déguiser la pension que je vous ferais.
Gontran dit d'un ton irrité,
« Mon cher William, ces choses-là m'embêtent. Je les sais d'ailleurs aussi bien que vous. Et je vous le répète, le moment est mal choisi pour me les rappeler avec aussi peu de diplomatie.
Permettez, laissez-moi finir. Vous ne pouvez vous tirer de là que par un mariage.
Or, vous êtes un parti déplorable, malgré votre nom qui sonne bien, sans être illustre.
Enfin, il n'est pas de ceux qu'une héritière, même israélite, paye d'une fortune.
Donc, il faut vous trouver une femme acceptable et riche, ce qui n'est pas très commode. »
Gontran l'interrompit.
« Nommez-la tout de suite, ça vaut mieux. »
« Soit
une des filles du père Auriol, à votre choix, et voici pourquoi je vous en parle avant le bal. »«
Et maintenant, expliquez-vous plus longuement, »
reprit Gontran d'une voix froide.
« C'est bien simple. Vous voyez le succès que j'ai obtenu du premier coup avec cette station.
Or, si j'avais entre les mains, ou plutôt, si nous avions entre les mains toutes les terres, conservé par ce finaud de paysan, j'en ferai de l'or, pour ne parler que des vignes qui vont de l'établissement à l'hôtel et de l'hôtel au casino. Je les payerai 1 000 000 demain, moi, Andermatt. Or, ces vignes-là et les autres, tout autour de la butte, seront les dots des petites, le père me le disait encore tantôt. Non sans intention, peut-être.
Eh bien, si vous vouliez, nous pourrions faire là une grosse affaire tous les deux. »
Gontran murmura en ayant l'air de réfléchir.
« C'est possible, j'y penserai. »
« Pensez-y, mon cher, et n'oubliez pas que je ne parle jamais que de choses très sûres, après y avoir beaucoup songé, et quand je connais toutes les conséquences possibles et tous les avantages certains. »
Mais Gontran, levant un bras, s'écria comme s'il venait d'oublier brusquement tout ce que lui avait dit son beau-frère.
« Regardez ! Que c'est beau !»
Le bouquet s'allumait, simulant un palais embrasé sur lequel un drapeau flambant portait Mont Auriol en lettres de feu toutes rouges, et en face de lui, au-dessus de la plaine, la lune, rouge aussi, semblait apparue pour contempler ce spectacle. Puis, quand le palais, après avoir brûlé quelques minutes, fit explosion ainsi qu'un navire saute, en projetant dans le ciel entier des astres de fantaisie qui éclataient à leur tour, la lune resta toute seule, calme et ronde sur l'horizon. Le public applaudissait avec rage, criait « Hurrah ! Bravo ! Bravo ! »
Andermatt dit soudain « Allons ouvrir le bal, mon cher. Voulez-vous danser en face de moi le premier quadrille ?»«
Mais oui, certainement, mon cher beau-frère. » »«
Qui avez-vous l'intention d'inviter ?»«
Moi, j'ai retenu la duchesse de Rama. »
Gontran répondit avec indifférence.
« Moi, j'inviterai Charlotte Auriol. »
Ils remontèrent.
Comme ils passaient devant la place où Christiane était restée avec Paul Bretigny, ils ne les aperçurent plus. William murmura
« Elle a écouté mon conseil et elle est partie se coucher. Elle était très lasse aujourd'hui. »
Et il s'avança vers la salle de bal que les hommes de service avaient préparée pendant le feu d'artifice. Mais Christiane n'était point rentrée dans sa chambre, ainsi que le pensait son mari. Dès qu'elle s'était sentie seule avec Paul, elle lui avait dit tout bas, en lui serrant la main,
« Te voici donc venue. Je t'attends depuis un mois. Tous les matins, je me demandais, est-ce aujourd'hui que je le verrai ? Et tous les soirs, je me disais, ce sera demain alors. Pourquoi as-tu tardé si longtemps, mon amour ? »
Il répondit avec embarras,
« J'ai eu des occupations, des affaires. »
Elle se penchait sur lui, murmurant,
« Ça n'était pas bien de me laisser seule ici, avec eux, surtout dans ma situation. »
Il écarta un peu sa chaise.
« Prends garde, on pourrait nous voir. Ces fusées éclairent tout le pays. »
Elle n'y pensait guère. Elle dit,
« Je t'aime tant. »
Puis, avec des tressaillements de joie,
« Oh, que je suis heureuse, que je suis heureuse de nous retrouver ensemble ici. Y songes-tu, Paul, quelle joie, comme nous allons nous aimer encore. »
Elle soupira d'une voix si faible qu'elle semblait un souffle.
« J'ai une envie folle de t'embrasser, mais folle, là, folle, je ne t'ai pas vue depuis si longtemps. »
Puis soudain, avec une énergie violente de femme passionnée à qui tout doit céder,
« Écoute, je veux, tu entends, je veux aller avec toi tout de suite, à l'endroit où nous nous sommes dit adieu l'an dernier. Tu te rappelles bien, sur la route de la Roche-Pradière ?»
Il répondit, stupéfait,
« Mais c'est insensé, tu ne peux plus marcher. Tu as été debout toute la journée. C'est insensé, je ne le permettrai pas. »
Elle s'était levée et elle répéta,
« Je le veux, si tu ne m'accompagnes pas, j'irai seule. »
Et lui montrant la lune qui se levait,
« Tiens, c'était un soir tout pareil. Tu te rappelles comme tu baisais mon ombre ?»
Il la retenait.
« Christiane, écoute, c'est ridicule, Christiane !»
Elle ne répondait pas et marchait vers la descente qui conduisait aux vignes. Il connaissait cette volonté calme que rien ne faisait dévier, l'entêtement gracieux de ses yeux bleus, de ce petit front de blondine qu'aucun obstacle n'arrêtait. Et il prit son bras pour la soutenir en route.
« Si on nous voyait, Christiane !»«
Tu ne disais pas ça l'an dernier.
Et puis, tout le monde est à la fête. Nous serons revenus sans qu'on ait remarqué notre absence. »
Il fallut bientôt monter par le sentier pierreux. Elle soufflait, s'appuyant sur lui de toute sa force. Et à chaque pas, elle disait
« C'est bon, c'est bon, c'est bon de souffrir ainsi !»
Il s'arrêta, voulant la ramener, mais elle ne l'écoutait point.
« Non, non, je suis heureuse. Tu ne comprends pas ça, toi. Écoute, je le sens qui tressaille, notre enfant, ton enfant. Quel bonheur ! Donne ta main. Tiens, le sens-tu ? »
Elle ne comprenait pas qu'il était, cet homme, de la race des amants, et non point de la race des pères. Depuis qu'il la savait enceinte, il s'éloignait d'elle et se dégoûtait d'elle, malgré lui. Il avait souvent répété, jadis, qu'une femme n'est plus digne d'amour qui a fonction de reproductrice. Ce qu'il exaltait dans la tendresse, c'était cet envolement de deux cœurs vers un idéal inaccessible, cet enlacement de deux âmes qui sont immatérielles. C'était tout le factice et l'irréalisable mis par les poètes dans la passion. Dans la femme physique, il adorait la Vénus, dont le flanc sacré devait conserver toujours la forme pure de la stérilité. L'idée d'un petit être, né de lui, larve humaine agitée dans ce corps souillé par elle et enlaidie déjà, lui inspirait une répulsion presque invincible. La maternité faisait une bête de cette femme. Elle n'était plus la créature d'exception, adorée et rêvée, mais l'animal qui reproduit sa race. Et même un dégoût matériel se mêlait en lui à ses répugnances de l'esprit. Comment aurait-elle senti et deviné cela, elle que chaque tressaillement de l'enfant désiré attachait davantage à son amant. Cet homme qu'elle adorait, qu'elle avait aimé chaque jour un peu plus, depuis l'heure de leur premier baiser, non seulement il avait pénétré jusqu'au fond de son cœur, mais voilà qu'il était entré aussi jusqu'au fond de sa chair, qu'il y avait semé sa propre vie, qu'il allait sortir d'elle redevenu tout petit. Oui, elle le portait là, sous ses mains croisées, lui-même, son bon, son cher, son tendre, son seul ami, renaissant dans ses entrailles de par le mystère de la nature. Et elle l'aimait doublement, maintenant qu'elle l'avait deux fois, le grand et le petit encore inconnu, celui qu'elle voyait, qu'elle touchait, qu'elle embrassait, qu'elle entendait parler, et celui qu'elle ne pouvait encore que sentir remuer sous sa peau. Ils étaient arrivés sur la route. « Tu m'attendais là-bas, ce soir-là » dit-elle. Et elle lui tendit ses lèvres. Il les baisa sans répondre, d'un baiser froid. Elle murmura pour la deuxième fois. « Te souviens-tu comme tu m'embrassais par terre ? Nous étions ainsi. Regarde !» Et dans l'espoir qu'il recommencerait, elle se mit à courir pour s'éloigner de lui. Puis elle s'arrêta, haletante, et attendit, debout au milieu de la route. Mais la lune, allongeant son profil sur le sol, y dessinait la bosse de son flanc déformé. Et Paul, regardant à ses pieds l'ombre de sa grossesse, restait immobile en face d'elle, blessé dans ses pudeurs poétiques, exaspéré qu'elle ne sentît pas cela, qu'elle ne devinât point sa pensée, qu'elle n'eût pas assez de coquetterie, de tact et de finesse féminine pour comprendre toutes les nuances qui font si différentes les circonstances. Et il lui dit, avec une impatience dans la voix, « Voyons, Christiane, ces enfantillages sont ridicules !» Elle revint à lui, émue, triste, les bras ouverts et se jetant sur sa poitrine. « Oh, tu m'aimes moins, je le sens, j'en suis sûre !» Il eut pitié, lui prit la tête et mit sur ses yeux deux longs baisers. Puis ils revinrent, silencieux. Ils ne trouvaient rien à lui dire. Et comme elle s'appuyait sur lui, épuisée de fatigue, il hâtait le pas pour ne plus sentir contre sa hanche le frôlement de cette taille élargie. En approchant de l'hôtel, ils se séparèrent et elle monta dans sa chambre. L'orchestre du casino jouait des airs de danse et Paul allait voir le bal. C'était une valse. Tous valsaient. Le docteur Latonne avec Madame Paille, la jeune. Andermatt avec Louise Auriol. Le joli docteur Mazelli avec la duchesse de Rama. Et Gontran avec Charlotte Auriol. Il lui parlait dans l'oreille avec cet air tendre qui indique une cour commencée, et elle souriait derrière son éventail, rougissait, semblait ravie. Paul entendit derrière lui. « Tiens, tiens, monsieur de Ravenel qui compte fleurette à ma cliente !» C'était le docteur Honora, debout près de la porte, s'amusant à regarder. Il reprit. « Oui, oui, voilà une demi-heure que cela dure. Tout le monde l'a déjà remarqué. Ça n'a pas l'air, d'ailleurs, de déplaire à la petite. » Il ajouta, après un silence, « En voilà une perle que cet enfant-là. Bonne, gaie, simple, dévouée, droite, vous savez, une brave créature. Il en faudrait 10 comme l'aîné pour la valoir. Moi, je les connais depuis l'enfance, ces fillettes. Et pourtant, le père préfère l'aînée, parce qu'elle est plus, comme lui, plus paysanne, moins drôle, plus économe, plus rusée,
et plus jalouse. Oh, c'est une bonne fille tout de même. Je n'en voudrais pas dire de mal. Mais malgré moi, je compare, vous comprenez? Et après avoir comparé, je juge, voilà.
La valse finissait. Gontran rejoignit son ami et, apercevant le docteur,
« Ah, dites-moi donc, le corps médical d'Anval me paraît singulièrement accru. Nous avons un monsieur Mazelli qui valse avec la perfection et un vieux petit monsieur Black qui semble fort bien avec le ciel. »
Mais le docteur Honorat fut discret. Il n'aimait point juger ses confrères.